Tout pour investir, le déchiffrage.
Et on retrouve en direct autour de ce plateau Gustave Sanden de Colbert. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Et Mathias Bacchino de Trade République. Bonjour.
Bonjour.
D'être avec nous en direct ce matin. On va peut-être justement parler beaucoup d'énergie avec le pétrole, avec mais aussi nos champions de l'intelligence électrique, comme je les appelle, les Legrand, les Schneider. Ouais, il y a des entreprises européennes qui bénéficient à plein de la vague d'investissement dans la tech, puisque de temps en temps, on s'en souvient, ça revient. On a besoin d'électricité, on a besoin de transformateurs, on a besoin de matériel de précision pour équiper les data centers, pour de manière plus générale. Et ça aussi, c'est un biais comportemental. On oublie complètement qu'il y a un autre dossier, c'est l'électrification de l'industrie. Pas que de l'IA, de l'industrie. Et ça, c'est tout bon pour nos spécialistes français, Schneider et Legrand, Mathias.
Oui, et on a tendance à l'oublier, mais on a aussi des champions en Europe. Il y en a moins qu'aux États-Unis. Il y a une profondeur de marché de ces entreprises-là qui est plus faible en Europe. Mais néanmoins, ils existent et ils sont absolument indispensables à ce qui est en train de se passer. Je voudrais juste ajouter peut-être deux éléments sur pourquoi ça va être, à mon avis, intéressant de s'intéresser à ces entreprises, justement. Anthropic, en étant bloqué par les États-Unis la semaine dernière, ou il y a 10 jours, sur Fable et Mythos pour leur modèle de pointe, étant interdit donc aux non-américains, ça a été probablement quelque chose qui va être réglé avec des solutions du type partenaire privilégié qui serait probablement réservé aux Européens, entre autres. Néanmoins, c'est un signal extrêmement fort qu'il faut des infrastructures complètes,
bien sûr,
souveraines, du début à la fin, en Europe, en allant des centrales nucléaires, en passant par les data centers, en passant par les softwares d'IA, y compris les modèles avec, entre autres, Mistral, mais aussi ensuite dans l'IA dans le monde physique, c'est-à-dire la robotique. J'étais samedi matin à Vivatech. Et il se trouve que mon frère a exposé avec sa start-up, Corben, qui fait des robots.
Vous les avez vus, ceux qui ont viandé les deux écrans là?
Alors, ceux-là non, parce qu'ils n'étaient pas sur le stand de mon frère, mais j'en ai vu un que j'ai pu piloter. Et Corben construit une IA propriétaire pour équiper les robots en Europe d'un cerveau souverain. Tout ça, ça va se faire, entre autres, avec des entreprises européennes sur lesquelles les États-Unis ou la Chine n'auront pas la capacité de leur demander de fermer le service aux Européens du jour au lendemain.
Donc c'est un
sujet extrêmement important qui est en train de se dénouer sous nos yeux. Et les Legrand, les Schneider et d'autres ont les capacités de bénéficier de la mise en place et de ce qu'on pourrait appeler le réveil IA de l'Europe. Si on n'est pas assez secoué par la guerre commerciale de Donald Trump depuis un an, les ambitions chinoises en termes de croissance économique et de domination économique, et là, ce qui est en train de se passer sur l'IA, et qu'on ne se réveille pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on se réveillera.
Oui, par exemple, justement, cette histoire de notre modèle d'IA, c'est que pour les Américains et tout ça. Moi, je me souviens je regarde un petit peu Twitter, mais ça a provoqué une vague de pleurnicherie. Enfin, je trouvais ça totalement indigne de décideurs, de patrons qui disaient « on n'y a pas droit ». On se débrouille, enfin je sais pas, et puis on fait confiance aussi à l'Europe pour de temps en temps, effectivement, au même titre que nos programmes de défense, se faire bousculer un petit peu par un président américain qui fait n'importe quoi, pour se dire on va se prendre en main. Alors il y a des accros, il y a des chaos, on est 27, mais globalement les solutions elles existent, Gustave. Est-ce qu'on a pas fini avec ce quart d'heure pleurnicherie qui est vraiment horripilant au bout d'un moment, parce qu'on a l'impression on est européen de toute manière, on est foutu?
Surtout qu'il y a effectivement pas que les modèles, il y a tout un tas
d'industries
qui sont, Mathias vient de le rappeler, qui sont liées et pour lesquelles on a quelques avantages à faire valoir. Il y a quelques semaines, on parlait de Choose France, je le rappelle, 90 milliards à peu près d'investissements annoncés, c'est 10 fois à peu près ce que c'était il y a quelques années. Donc on voit que, un, on a des ressources, deux, on arrive à attirer des capitaux étrangers pour financer, pour développer les actifs pour lesquels on a des avantages, pour le coup concurrentiels et compétitifs. Du coup, je me suis amusé à regarder rapidement, là, en préparant l'émission, non pas les Nvidia et consorts et leurs performances boursières, mais plutôt le second degré, c'est-à-dire les entreprises américaines plutôt de l'énergie et notamment du nucléaire, et quelles étaient les performances boursières des 3 dernières années. Vous avez Vertiv, par exemple, plus 1700%. Vous avez Constellation Energy, qui est le plus gros fournisseur sur le nucléaire, plus 290% en 3 ans, et Talen Energy, plus 740%. C'est assez intéressant, parce que là, en l'occurrence, on est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Enfin, on est vraiment sur une bataille d'ego, et on est très loin de ces performances-là en bourse pour les entreprises équivalentes en Europe. Donc, appuyons sur ce qu'on a. Et effectivement, au lieu de pleurnicher, faisons valoir nos arguments. On a réussi dans les marchés privés avec Choose France, a priori, à dégager quand même un petit peu d'énergie. Alors, on peut discuter de la souveraineté capitalistique, mais en tout cas, il y a quand même des, il y a à la fois les actifs et les capitaux pour financer les projets.
Mais oui,
donc, il y a plus qu'à.
Et j'allais dire, les consciences se réveillent. On avait quand même ça. Enfin, là, pour le coup, ça provoquait des éclats de rire désespérés. L'Allemagne qui nous avait annoncé il y a quelques mois qu'elle allait construire son cloud souverain avec Amazon. Bon, ok. Non, en plus, c'était pas une blague. Oui. Nous, bon, ben voilà, on va faire appel à des opérateurs locaux, à l'Europe, etc. Bon, ça a l'air de se réveiller un peu. Et puis, il y a aussi la deuxième vague de la pleurnicherie qui est, vous comprenez, vous avez vu les milliers de milliards de dollars de capitalisation, ça se passe aux States, ça se passe pas chez nous. Mais on n'a pas besoin de faire 1000 milliards de dollars de capitalisation pour être archi pointu et pour être demandé partout. Regardez, ASML. Le monde entier a besoin d'ASML.
Bon, surtout, si on regarde comment les capitaux sont dépensés, je sais pas si vous avez vu ce que je vous ai envoyé.
Et on va y venir.
Voilà.
On a la vérité des chiffres autour d'OpenAI.
Exactement.
Et c'est pas ce qu'on croit. Parce qu'on se dit, de toute manière, Cash Burn, c'est une société qui va pulvériser sa trésorerie en recherche et développement. Ben non. Il y a un autre truc qui commence à peser de plus en plus, vous l'avez relevé, et je pense que c'est un des chiffres les plus intéressants de la matinée. Dites-nous, Gustave.
Bah effectivement, on pense toujours CAPEX, et donc bataille d'infrastructure, et si j'ai 20 milliards versus 5 milliards, y a une rivalité qui devient difficile à réconcilier. Sauf que là, effectivement, les chiffres de OpenAI, qui sont privés, sont sortis la semaine dernière, et donc on s'aperçoit qu'il y a un chiffre d'affaires qui augmente très fort. Bon, là, pas de surprise, 13 et quelques milliards de dollars. En revanche, une perte de 20 et quelques milliards, ça non plus pas de surprise majeure. En revanche, quand on regarde la composition des dépenses, on s'aperçoit qu'il y a quand même 40% du chiffre d'affaires qui est dépensé en marketing.
Allez, et donc, c'est ça qui est dingue.
Et donc là, on parle pas tout à fait de recherche et développement.
Bah non.
On parle d'autre chose.
Alors c'est du CAPEX, mais waouh.
Alors,
au sens... Du marketing, quoi.
Je vous laisserai votre discussion avec votre comptable, Antoine, mais je sais pas si on peut immobiliser 40% des dépenses en marketing en CAPEX. En revanche, on peut dire que c'est de l'investissement d'une certaine façon, ça c'est certain. Mais là, clairement, on voit finalement les faiblesses d'un modèle. Ce qu'il faut peut-être relever quand même, pour être tout à fait transparent, c'est que tous les champions de l'IA n'ont pas les mêmes problématiques. OpenAI est le seul, en fait, des champions de l'IA à ne pas avoir sa plateforme de distribution, et si je vais un peu plus loin même, sa communauté. Je prends SpaceX, évidemment, plus besoin d'en parler, qui détient xAI, à sa plateforme de distribution intégrée au travers de Twitter, mais aussi effectivement de la communauté d'Elon Musk. Google, inutile de vous dire que c'est des gens qui ont une plateforme de distribution intégrée, je pense à Gemini. Et donc en fait, il y a un retard structurel, ou en tout cas, il y a une inexistence de cette plateforme de distribution qui leur fait défaut. Mais potentiellement, il faudrait regarder effectivement quelles sont les dépenses réelles de marketing de ceux que je viens de citer. Ouais. Ça pourrait être assez intéressant de le regarder. Et ça relance un peu le débat de est-ce qu'on a un tel retard capitalistique ou est-ce qu'on a un retard marketing, auquel cas on peut être assez optimiste.
Bon, ça c'est un truc à suivre parce que ça c'était le facteur X qu'on n'attendait pas, les dépenses de marketing.
Et où ils les dépensent exactement, ça peut aussi donner des idées d'investissement. Ben voilà.
Ouais, c'est un sujet que je vais creuser parce que je suis très étonné.
C'est marrant. Hein.
Leur marketing est quand même très fortement drivé par le produit, ce qu'il peut faire et la viralité que ça peut déclencher et l'usage de bouche à oreille ensuite massif qui se déclenche quoi. Donc je suis étonné. J'ai pas le sentiment d'avoir été exposé moi-même. Un marketing grand public agressif de la part d'OpenAI ou même d'Anthropic. Mais c'est intéressant, je vais regarder.
C'est pour ça qu'on peut se poser la question de où.
Ouais.
Peut-être voilà. Les mêmes.
Il faut voir ce qu'ils mettent derrière aussi les dépenses de marketing, s'il y a des dépenses de lancement dans des pays aussi. Voilà, c'est intéressant.
On parle de 5 milliards et quelques, donc c'est appréhendable.
Totalement, mais c'est intéressant dans le sens où, oui, effectivement, on n'est pas soumis forcément à de la pub. C'est un petit peu comme Ferrari ou Richard Mille. Enfin, est-ce que c'est des gens qui ont besoin vraiment de pub? Mais non, c'est peut-être plus complexe que ça. Et justement, l'introduction en bourse va les obliger à mettre carte sur table. Et ça, c'est intéressant. Oui, il vous aurait pas échappé qu'il fait chaud. Bon, et vous avez décidé de vous concentrer un petit peu sur les ravages économiques dus au manque de climatisation.
Franchement, ça m'arrive parfois sur ce plateau, mais ce matin, je suis réellement profondément en colère. Donc, je vais essayer de garder mon calme, ça ne va pas être simple. un pays comme Singapour a vu son décollage économique arriver le jour où ils ont commencé à climatiser. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison simple. Quand vous subissez une température supérieure à 30 degrés, la perte de productivité est estimée à 10%. Chaque degré supplémentaire au-dessus de 30 degrés, c'est 3% de productivité horaire en moins par degré. Les capacités cognitives des personnes qui travaillent, quand il fait plus de 28 degrés, elles baissent de 10% par degré supplémentaire. Donc c'est un problème économique aussi. C'est un problème de société massif, de mise en danger des personnes les plus fragiles. Alors même qu'on entend encore, il y a quelques jours, des idéologues mentir sur des médias de grande écoute sur l'impact écologique de la climatisation. Ils ont menti et ils le savent. Ils nous parlent de 4 degrés de hausse de la température extérieure à cause de la climatisation. C'est faux. C'est pas démontré. Donc, face à un problème comme celui-là, je suis favorable, moi, à une mécanique simple qui est la mécanique d'innovation. Il est évident que pour protéger les plus fragiles et le développement économique du pays, il faut climatiser. Est-ce que c'est pas écologique ? Sans doute. Mais ce qui est bien, c'est que les entrepreneurs, si vous leur dites « on va équiper toute la France de climatisation », ça serait bien que vous nous trouviez un système qui ne pollue pas. Eh ben, ils vont trouver. Voilà. Donc, service qu'on puisse rendre à la planète, c'est d'encourager les industriels et les entrepreneurs français à s'intéresser à ce sujet de la climatisation sans honte, parce que ça protège les plus fragiles et ça protège le développement économique. Eh bien, je suis absolument convaincu que s'ils font ça et s'ils se mettent en recherche, c'est les entrepreneurs, les scientifiques et les industriels français qui trouveront les solutions pour que cette climatisation elle soit à la fois efficace et qu'en même temps, elle pollue pas. Voilà. Et si on n'investit pas dans cette technologie, on risque pas de trouver des solutions pour que la climatisation pollue moins.
Non, bien sûr.
Et en revanche, penser qu'on va pouvoir vivre en France de la même manière qu'on le vit aujourd'hui sans climatiser le pays, c'est une dinguerie. Alors, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Voilà. Donc, il y a un problème économique majeur, ça s'appelle la stagflation climatique. C'est très mauvais, évidemment, pour l'économie, parce que là, on le voit bien, depuis une semaine, le pays est à l'arrêt. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal, hein. Vraiment. Je souffre de la chaleur.
Moi, je dois vous dire que je suis mieux au bureau que chez moi.
Voilà. Donc, c'était le petit coup de gueule de ce lundi matin, parce que j'en ai vraiment marre d'entendre n'importe quoi sur ce sujet. C'est pas la réalité, c'est pas la réalité souhaitée par les gens. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule. Si on veut pas devenir un pays sous-développé économiquement, l'un des enjeux va être de climatiser, c'est évident.
Bon, mais Mathias, on va transmettre ce coup de gueule, il est tout à fait légitime. Peut-être ajouter dans la boucle aussi les entrepreneurs du BTP, parce que il y a des progrès techniques et autour de cette table, il y a des tas d'entrepreneurs du BTP qui nous montrent des progrès en termes de gestion des flux intérieurs, sans avoir besoin à fond de tirer sur la clim pour faire mieux circuler l'air. Sur le terrain, moi, j'en vois pas beaucoup des immeubles comme ça. Je peux vous dire que le mien, il a été construit il y a pas très longtemps, il est isolé n'importe comment. Donc après, on peut toujours reprendre le problème de l'isolation à zéro sur un immeuble déjà construit, mais enfin, c'est un gaspillage éhonté. Et là, il y a plein de questions à se poser, hein, mais c'est quelque chose de global.
C'est pas anecdotique, quoi. Je veux dire, on sait que c'est que quelques semaines dans l'année, mais Allianz Trade nous dit quand même que ça pourrait coûter 200 milliards d'euros à la France d'ici à 2030.
Oui.
Donc c'est pas anodin. Voilà, c'est
aussi
un enjeu économique
la chaleur,
absolument considérable.
De climatisation, on est d'accord. Juste un truc, Gustave, on va continuer à parler énergie. On est dans la thématique énergie. Les prix du brut se sont quand même bien calmés. On est sous les $80 pour le Brent. Ouais. Sur le terrain, il y a pas de signe d'accalmie. Hein, c'est compliqué. Il y a eu d'ailleurs ce matin des grosses explosions entendues du côté de l'Arabie Saoudite, du côté d'autres pays du Golfe concernant des dispositifs de craquage. Enfin, c'est un peu technique, mais des complexes énergétiques. Le détroit d'Ormuz, ça se passe au compte-gouttes. Là, on reste dans une situation qui est quand même très tendue.
Effectivement, les marchés sont plus optimistes que la réalité physique. Donc on a eu une baisse, vous avez eu une petite baisse, 33% en un mois, c'est pas mal.
Oui.
On était autour des $120, on est autour des $80 le baril, donc ça s'est quand même sacrément ajusté. C'est valable aussi pour les pétrolières. Je sais pas si vous avez suivi, je me rappelle la semaine dernière, on ouvrait avec Total à moins 6 presque. Enfin, y a eu aussi un
repricing. Oui, ça a bien corrigé à bas bruit, mais ça a bien corrigé,
Ce qui induit d'ailleurs des multiples qui sont quand même pas très chers sur les pétrolières et particulièrement notre champion français. Je crois qu'on est autour des 8 fois. Bon, c'est pas particulièrement cher quand on voit l'année qu'on a passée. Et pourtant, effectivement, si on regarde le terrain, bah, les réserves sont au plus bas. Et c'est donc ces réserves qui ont compensé massivement jusqu'à présent la consommation de pétrole et donc potentiellement un petit peu soutenu cette baisse de prix. On est passé de 2700 millions de barils à peu près 160 millions de barils de réserves. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et si on regarde du côté des États-Unis, à Cushing, là où effectivement on a ces réserves, on est presque au seuil critique qui est de 20 millions, alors même que pour le coup, il n'y a pas eu de perturbation majeure, comme vous le savez, de la production américaine.
Mais non, c'est ça qui est fou. Et dans cette obsession de Trump, il parle comme si c'était un pays qui importait massivement du pétrole.
Même ce pays producteur est quand même impacté au niveau de la production. Je dirais que le dernier point sur la réalité physique, encore une fois, du marché, c'est les assurances. Les assurances,
on en revient toujours.
Dans le coût de revient, si vous voulez, du pétrole, c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en considération. Passer de 200 000 dollars pour assurer un navire qui franchit le bateau d'Hormuz à 1 million de dollars aujourd'hui. Donc oui, ils sont assurés. Je vous rappelle, il y a quelques semaines, il n'y avait parfois pas de police d'assurance disponible. Là, ils sont assurés, c'est 1 million de dollars. Mmh. C'est quand même des sacrées hausses de prix qui, pour l'instant, ne sont absolument pas reflétées dans les cours, qui sont assez optimistes, je dois dire. Donc espérons effectivement que le protocole d'accord arrive à un accord définitif et que les infrastructures soient reconstruites et que la production reprenne son cours. Ouais. Mais ça fait beaucoup de si. Ouais. Et je trouve les marchés sacrément optimistes. Et c'est potentiellement une bonne nouvelle pour nos amis pétroliers, parce que eux, en fait, le fait d'avoir un forward qui est potentiellement plus cher que l'immédiat, leur permet finalement de produire à bas coût et de vendre plus cher.
Mathias, une petite réaction, 20 secondes.
D'abord, probablement que la Chine et les États-Unis vont quand même devoir se prendre un moment, quoi, pour encaisser tous les impacts que ça a eu pour eux, cette guerre. Je pense évidemment au stock de pétrole, mais aussi au stock d'armes côté américain. Ensuite, moi, je m'inquiète parce que je pense à Donald Trump. S'il réussit à sortir de ce conflit, il va lui falloir un narratif pour lancer sa campagne des mid-termes. Quel sera ce narratif? C'est la grande question que je vais me poser pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'il avance ses pions. Et on peut espérer que ce sera pas un regain de guerre commerciale avec l'Europe, ou une relance de la guerre commerciale avec la Chine.
Ou le Groenland.
Voilà. C'est la question que je me pose. Après, l'impact inflationniste de cette guerre, pour moi, il est complètement acquis. Je le dis depuis des semaines. On sera à au moins 3% en France. La croissance est en train de s'arrêter. On va avoir une récession technique dans le pays. Donc voilà, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Et on redit la même chose qu'on dit depuis février. C'est les pays qui étaient mal équipés pour faire face à cette crise qui en ressortent affaiblis, la France en tête, malheureusement.
Oui. Mathias Bacino, Trade République, et Gustave Sandeno-Colbert, merci infiniment d'avoir déchiffré l'actu avec nous ce matin.